Toyota Cowansville est fier de rouler aux côtés du balado Le Guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site cowansvilletoyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cowansville, ici, chaque client est unique. Bonne écoute!
Actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé, c'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto en compagnie de mon collègue Louis-Philippe Dubé. Salut Louis.
Bonjour, ça va?
Ben oui, écoute, Hugues n'est pas là cette semaine. Monsieur s'est fait mal au pied. Et alors, on lui souhaite prompt rétablissement. Il sera de retour la semaine prochaine.
C'était le pied de l'accélérateur, il n'y a pas plus grand.
Exactement. Mais je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça, d'ailleurs. Bref, vous le savez maintenant. C'est pas grave. Mais on a avec nous Denis Thériault de l'émission JE, que vous connaissez bien, qui a assisté cette semaine, bien sûr, à cette conférence de presse qui a été commandée par la police provinciale de l'Ontario.
Oui.
Sur le fait qu'on a trouvé tout près de 600 véhicules volés dans le port de Montréal. Bon, pas en une journée, évidemment, ça s'est échelonné. Denis, t'es avec nous maintenant?
Bonjour, messieurs.
Salut.
Salut, Denis.
Bon, écoute, évidemment qu'on sait que t'as suivi depuis déjà quelques années le monde du vol automobile, si on peut s'exprimer ainsi. Vous aviez fait un dossier spécial à JE cette année et c'est un dossier qui évolue énormément. Qu'est-ce que t'as pu constater suite à la conférence qui a été menée un peu plus tôt cette semaine?
Bien, en fait, ce qui est intéressant dans cette conférence de presse-là qui a eu lieu plus tôt cette semaine, justement, c'est que la police provinciale ontarienne, l'OPP, qui organisait la conférence, a fait un bilan de ce qu'ils ont saisi au port de Montréal dans des conteneurs au cours des trois derniers mois, en fait, depuis le mois de décembre dernier. On parle de 598 véhicules.
Ouais.
La majorité, là, les trois quarts proviennent de l'Ontario, de ce qui a été saisi dans les conteneurs au port de Montréal. Ils ont trouvé ça dans 390 conteneurs d'une valeur de plus ou moins 35 millions de dollars. Ça, c'est ce qu'on avait à dire essentiellement. Je vous dirais que où il y avait du questionnement, c'est qu'il n'y a pas eu d'arrestation par rapport à ces véhicules volés qui ont été saisis au port de Montréal.
Rien du tout.
Et ça, il n'y en a pas été question, en fait. La question a été posée en conférence de presse. On n'a pas vraiment eu de réponse là-dessus. On peut comprendre que les enquêtes vont se poursuivre. Mais ce qu'on sait, là, cependant, par rapport aux exportateurs, en fait, c'est ça qui est important. Lorsque les policiers réussissent à démanteler un réseau, ils veulent avoir l'exportateur. Et les hauts dirigeants des réseaux de vol et d'exportation de véhicules vers des pays de l'autre côté de l'Atlantique. Alors ça, on n'a pas rien eu là-dessus ce matin. Il y a quand même, durant la conférence de presse, il y avait des gens de la Sûreté du Québec, la police de Montréal, l'Équité Association, SPVM, donc, comme je l'ai mentionné, la police de Montréal, la GRC également, en plus des Ontariens qui étaient là. Alors, du côté de la Sûreté du Québec, on a rappelé que ici, dans la grande région de Montréal, il y a une trentaine de policiers spécialisés dans le crime organisé qui ont vu leur vocation changer au cours des dernières semaines et qui s'attaquent aux gros réseaux d'exportation de véhicules. Alors ça, on sait qu'ici, il y a un travail qui se fait. Du côté de l'Ontario, on ne sait pas trop de quelle façon ils travaillent ça. Il n'y en a pas été question ce matin. On sait aussi que le SPVM, il n'y a pas si longtemps, là, il y a 2-3 semaines, ils ont démantelé un réseau d'exportation. C'est là que ça fait mal, vraiment. Et il y a des exportateurs qui ont été arrêtés, ils ont saisi des véhicules. Donc, du côté du Québec, il y a beaucoup de travail qui se fait de ce côté-là. Côté Ontario, en tout cas ce matin, ou plutôt un peu plus tôt cette semaine, là, il n'y en était pas question à la conférence de presse.
Bon, évidemment, la question qu'on se pose, c'est qui trouve ces véhicules-là et comment on réussit à faire une espèce d'inventaire pour finalement mener à ce genre de conférence-là, parce que c'est pas les autorités portuaires uniquement, qui vont trouver ces véhicules-là. Là.
En fait, c'est souvent le travail des policiers qui permet d'en arriver à cibler des conteneurs.
Okay.
Durant la conférence de presse de cette semaine, ce qui a été dit, à part de l'Agence des services frontaliers, c'est que les conteneurs ciblés par les policiers comme étant des conteneurs suspects pouvant contenir des véhicules volés sont systématiquement ouverts. Comment ils les ciblent? Les policiers, bon, ils ont plusieurs techniques pour le faire. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ultimement, ça fonctionne de ce côté-là. Ça pourrait fonctionner davantage. Pour ce qui est de l'Agence des services frontaliers, l'enquête qu'on avait faite à l'émission GIE l'automne dernier, on avait réussi à trouver des failles au niveau des numéros de série. Si, par exemple, Antoine, tu décides d'exporter ton véhicule en Côte d'Ivoire, ben, tu vas devoir remplir des papiers au transport, aux douanes également, pour pouvoir acheminer ton véhicule par conteneur de l'autre côté.
Ouais.
Nous, ce qu'on avait fait, en fait, ma collègue Nora Lamontagne du bureau d'enquête avait vérifié des numéros de série. Elle avait vu des doublons ou même plus encore des véhicules. Par exemple, un Dodge Charger 2022 qui est envoyé le 5 octobre à Dubaï, qui est envoyé le 15 octobre au Sénégal, puis qui est envoyé à la fin du mois d'octobre à un autre endroit en Afrique.
Donc, une multiplication d'un même numéro de série qui est acheminé plusieurs fois, ça facilite le travail des voleurs, des exportateurs, mais en vérité, ce sont d'autres véhicules.
Alors, totalement.
C'est,
ça veut pas dire que la voiture s'en va trois fois, c'est physiquement impossible. Alors, le même numéro de série d'un véhicule peut être utilisé pour envoyer plusieurs véhicules. C'est une technique que les voleurs ont et ça passait. Qu'on fasse notre enquête à cette heure, voyons ce que ça va donner, là.
Mais Denis, j'ai une question. Il y a quelques mois de ça, on s'inquiétait un peu de la communication entre les forces policières et aux douanes. Tu sais, il y avait des véhicules qui se retrouvaient dans des conteneurs. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites, des propriétaires qui ont même tracé leurs véhicules jusque dans certains conteneurs, mais il n'y avait pas vraiment de communication. Là, ce que je comprends, qu'est-ce que tu nous dis, c'est qu'il y a, dans les derniers mois, il y a eu beaucoup plus de communication entre l'Agence des douanes et puis les forces policières. Mais là, on parle de...
Ça, là-dessus, tout le monde s'entend.
Oui. Mais là, on parle de paperasse, là, de numéro de série, puis d'exportateur. Ça, c'est sûr qu'il y a des noms de gens sur ces papiers-là d'exportation. Les enquêtes, j'imagine qu'elles sont poursuivies, puis on essaie de trouver ces gens-là. Mais là, si on n'en a pas parlé à la conférence de presse, c'est parce que c'est plus difficile que ça a l'air.
Oui, ben en tout cas, la conférence de presse, les Ontariens n'ont pas parlé de cet aspect-là.
Okay.
Eux, ils ont fait des arrestations récemment, c'était des petits voleurs et autres, mais ils n'ont pas parlé de ça.
Okay.
Dans le projet qu'on a fait, on nous expliquait, et c'était très clair, que d'en venir à arrêter et de faire la preuve, surtout, qu'une personne a exporté un véhicule volé, c'est assez laborieux comme preuve à démontrer. Parce que, tantôt j'expliquais la paperasse un peu tout ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on se sert de numéros de série de véhicules qui ne sont pas volés pour les mettre sur les dossiers d'expédition. Et puis, c'est pas ce véhicule-là qui est dans le conteneur. Mmh. Alors, ça, c'est une des techniques qu'ils utilisent, là. Mais bref, les voleurs sont très habiles et le travail policier pour arrêter les gros joueurs là-dedans est assez compliqué parce qu'il y a des contrats, parce qu'ils prennent des sociétés écrans.
Voilà.
C'est pas simple là, de ce côté-là. Ça, il faut leur donner ça, c'est vraiment pas simple. Mais les policiers se parlent maintenant, c'est ce qu'on nous a dit. Puis l'Agence des services frontaliers, le courant passe, c'est ce qu'on nous dit actuellement.
Est-ce que tu as l'impression, parce que moi j'avais fait une entrevue à l'émission ici au Guide de l'Auto avec les responsables des communications du port de Montréal et on en était venu à la conclusion qu'essentiellement on se déresponsabilisait de la plupart des trucs qui se passaient sur leur territoire et on sait qu'à l'échelle canadienne, le port de Montréal est littéralement perçu comme une passoire. Est-ce que tu as l'impression que c'est en train de changer et que l'étau se resserre un peu, là?
Je pense que c'est important de préciser, Antoine, à ce moment-ci, que le port de Montréal, l'entité, ne peut rien faire. Ils n'ont pas de juridiction pour ça. Ils n'ont pas le droit d'ouvrir des comptes. Ils ne peuvent absolument rien faire. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent, arrêtez de nous pointer du doigt, c'est l'Agence des services frontaliers, ce sont les douaniers au port de Montréal qui, eux, ont le pouvoir d'ouvrir les conteneurs, ont le pouvoir, s'ils le veulent, de faire des enquêtes là-dessus. Donc, ça relève de l'Agence des services frontaliers. Là, visiblement, le travail se fait davantage par rapport à avant. C'est pas qu'ils... En fait, si on résume la situation de l'automne dernier, par exemple, le président du syndicat des douaniers avait dit à notre émission, l'exportation des conteneurs, c'est pas une priorité pour le port. Puis l'exportation des autovolés, c'est la dernière des priorités. Ça, c'était la citation, presque mot pour mot, du président du syndicat des douaniers.
C'était Il était beaucoup plus inquiet parce qu'il rentre que parce qu'il sort. C'est ça.
Ah oui, absolument. Mmh, absolument. Ouais. Puis, lorsqu'on connaît le contexte des autovolés, je pense que la dynamique change. Mais, tu sais, j'insiste là-dessus, là, de partout, on me dit, oui, là maintenant, les gens se parlent. Les gens parlent aux douanes et tout. Est-ce que les douanes pourraient en faire plus? Ben, voyons dans l'avenir qu'est-ce qui va se passer. Mais la communication se fait maintenant parce qu'avant, il y avait beaucoup de récriminations, de plaintes par rapport à tout ça. Ça allait pas très bien avant, mais là, ça se parle. Ça, c'est rassurant. Est-ce que c'est efficace au maximum? Ben là, c'est en progression, est-ce qu'il faut comprendre. Ce matin, plutôt cette semaine, excusez-moi, mais pour ce qui est des Ontariens, ben là, eux, ils ont fait le bilan de ce qu'ils ont saisi dans les trois derniers mois.
Ouais.
Mais c'est tout. T'sais, c'est quand même pas assez significatif, 600 véhicules, mais si on tient compte qu'au port de Montréal, annuellement, jusqu'à l'année passée, c'était peut-être 1200 véhicules qui étaient saisis. Là, en presque 4 mois, c'est 600. On voit qu'il y a des efforts qui sont faits. Puis d'ailleurs, lorsque je suis allé au port de Montréal pour l'ouverture de conteneurs, plutôt cet hiver,
ouais.
Ben, on voyait à ce moment-là des policiers ontariens qui étaient déjà là et qui participaient aux enquêtes. Il y a vraiment un travail de collaboration qui se fait. On sent qu'il y a des efforts pour régler ça, mais c'est pas un petit problème.
Qui aurait intérêt, selon toi, à ce que le vol automobile ne cesse pas? Parce que évidemment, on sait qu'il y a eu un sommet où on a rassemblé plusieurs maillons qui sont directement impliqués là-dedans. On parle des assureurs, on parle des compagnies de location, on parle des compagnies qui fabriquent des éléments de sécurité pour contrer le vol automobile. Tous les constructeurs automobiles étaient présents dans ce sommet-là. On ne sait trop ce qui en est sorti et quelles sont les actions qui ont été faites par la suite de ce sommet-là. Mais est-ce qu'il y a, selon toi, quelqu'un qui n'aurait pas nécessairement intérêt à ce que ça s'améliore? Ou du moins, oui, bien sûr, les voleurs, mais est-ce que, par exemple, c'est sûr qu'on ne peut pas le nommer comme ça, mais est-ce que, par exemple, un gouvernement pourrait ne pas être à ce point intéressé à ce que ça se règle, sachant qu'il se vend plus de véhicules, qu'on va donc collecter plus de taxes par la vente de véhicules, qu'on va donc collecter plus de taxes parce que le coût des assurances augmente en flèche? On travaille, dans le fond, pour... diminuer nos revenus, là. T'sais, c'est un peu ça, c'est comme le trafic d'odomètre.
Non, vraiment pas. La pression est très forte. C'est pas un scénario qui est envisageable, qui peut être mis de l'avant. Il y a trop d'enjeux importants. Les gens
sécurité
perdent
publique.
Trop avec ça. Et la pression est extrêmement forte vis-à-vis les gouvernements, vis-à-vis les autorités policières et tout.
Okay.
Pas du tout. Les seuls qui ont intérêt à ce que ça continue, ce sont les voleurs. Mais pour le reste, puis on le sait, hein, les assureurs, les factures explosent. C'est un impact direct sur notre facture d'assurance à chacun.
Parle-moi-en, j'ai reçu mon renouvellement.
c'est ça.
Ouais.
Puis la réalité là-dedans, c'est que en fait, on l'a vu avec le sommet qu'il y a eu, et avec les conférences de presse qu'ils font. Les Ontariens, ils ne sont pas venus faire la conférence de presse ici pour rien. C'est justement pour démontrer qu'il y a des choses qui se passent. C'est quand même pas banal, là, ces 100 véhicules qui ont été saisis. Le seul questionnement, c'est bon, pourquoi personne n'a été arrêté? Mais c'est quand même assez important là, comme événement qui s'est passé. Puis ce qu'on entendait, là, c'est chacun loue le travail de l'autre. On ne voyait pas ça avant comme ça. Là.
OK. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe qui se passe là.
Oui, on le sent. Est-ce que ça pourrait être plus efficace? Évidemment, c'est ce que tout le monde souhaite.
Ah oui.
Mais on me confirme que par rapport à, mettons, en septembre, octobre dernier, par rapport à maintenant, ça a beaucoup évolué par rapport à ça. Le courant passe tant avec les douanes que les autres. T'sais. Il y avait je pense que c'était beaucoup un problème de communication. Puis j'avais fait une entrevue à l'automne avec un exportateur. Puis ce qu'il me disait, il y avait un exportateur de véhicules volés évidemment. Là.
Ouais.
Ce qu'il disait, c'est qu'il profitait du fait que personne ne se parle là-dedans. Personne ne se parlait.
OK.
Tant la compagnie de transport que les douanes, que les autorités, un peu partout. Ça, il profitait de ça.
C'est facile de brouiller les cartes.
C'est aussi facile maintenant. Okay.
Denis, on parle des véhicules qui s'en vont en Asie, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud.
Oui.
Est-ce que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui écoute ou qui collabore avec cette nouvelle collaboration-là qu'on a? Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'autre bout de la ligne qui est un petit peu sensible à ça, qui va échanger de l'information avec nous?
Ça dépend des pays.
Ouais.
Par exemple, on a vu un peu plus tôt cet hiver du côté de l'Italie.
Ouais.
Ils ont saisi quelques centaines de véhicules canadiens qui étaient en transit vis-à-vis un départ au sud de l'Italie. Et là, on voyait ça, là, c'était sur le quai. Et puis, ils ont fait une conférence de presse. Ils ont voulu attirer l'attention sur le fait, on fait quoi avec ça? Parce que ce sont des véhicules du Canada. Fait qu'à partir de ce moment-là, les gens, c'est sûr que les gens d'Italie, ils ont parlé aux autorités ici. Ces véhicules-là, il faut le rappeler, hein, ceux qui se font voler leur voiture et qui se font rembourser avec les assurances, l'auto ne leur appartient plus. L'auto appartient aux assurances. Fait que c'est le rôle des assurances soit de les rapatrier ou de les vendre là-bas. Ouais. On tombe dans cette dynamique-là. Donc, ouais. et les gens se parlent à ce niveau-là. C'est vrai que la grosse différence par rapport aux enquêtes policières, c'est Interpol. Interpol dispose d'une banque pour chacun des pays d'auto-volés avec des numéros de série.
Okay.
Alors, si par exemple, à Dubaï, il y a un véhicule avec une plaque canadienne qu'on ne sait pas si ça a été volé ou pas, qui est à vendre, ils n'ont qu'à vérifier du côté d'Interpol et là, Interpol est capable de dire « Oui, effectivement, ce numéro de série-là correspond à un véhicule volé au Canada, au Québec, Saint-Hyacinthe ou peu importe.
Ouais. »
Ils sont capables d'avancer ça.
Et à Dubaï, il y a une forte concentration, je te dirais.
Ah oui, ouais. C'est pour ça que je sais que tu es sensible à ça. Là.
Ouais, ouais.
C'est pour ça que je l'ai dit. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ça, c'est vrai maintenant. Ça fait longtemps que la banque existe, mais le Canada n'était pas nécessairement à jour. Maintenant, le Canada est à jour là-dessus. Et ce qu'on comprend, c'est que la GRC les alimente et on s'assure que ça va bien. Il y a des courants qui passent, il y a des discussions, mais il y a des pays où la voiture est volée, elle est là, tu sais.
Ils ont d'autres priorités.
C'est comme ça.
Il y a un aspect qui devient de plus en plus inquiétant. On n'a pas l'impression que ça arrive très souvent encore au Québec et on s'explique mal pourquoi, considérant la hausse du crime par violence chez nous, là. Mais en Ontario, il y a du carjacking. Il y a des gens qui se font voler leur véhicule à la pointe d'une arme, qui se font littéralement sortir de leur véhicule alors qu'ils attendent un feu rouge. On n'a pas vu ça vraiment ici au Québec. Et pourtant, la montée des gangs de rue, la montée de la violence, on va recruter des jeunes de 12, 13, 14 ans pour faire des vols de véhicules. Comment t'expliques? Et on en est très heureux, là, mais comment t'expliques que c'est pas encore arrivé ici? On entend parler, mais on n'a pas vu. Comment?
Mon explication vaut la tienne par rapport à ça. Ça dépend de la dangerosité des gangs de rue dans différentes villes. Toronto et l'agglomération de Toronto, c'est un endroit où les gangs de rue sont quand même... ce sont des gens assez dangereux et autres. Mais pas plus tard que vendredi de l'autre semaine, là, à Ottawa, 23h30, les policiers pointent un véhicule volé. Il tente de l'intercepter. Le véhicule volé a foncé dans une voiture patrouille. Il y avait trois adolescents dedans.
Ouais.
Ils ont blessé sérieusement les deux policiers qui étaient dans la voiture patrouille. On en voit là-bas, puis ici, il y a des incidents qui arrivent aussi. Le danger avec ça, c'est justement, c'est les jeunes qui n'ont rien à perdre. Souvent, ce sont des gold gangs, mais souvent, ce sont des jeunes sans histoire. Parce que les voleurs, en fait, les organisations préfèrent avoir des jeunes de moins de 18 ans. Ça coûte moins cher pour faire voler l'auto. En fait, faire transporter l'auto, là, de déplacer d'un endroit à l'autre, c'est là qu'il y a un danger, c'est là qu'il y a un risque. Alors, à ce niveau-là, tant en Ontario qu'ici, il y a un enjeu majeur. Pour ce qui est des crimes violents rattachés à ça, ben, on peut dire qu'on est chanceux que ça n'arrive pas ici.
On est chanceux, mais on a l'impression qu'il est minuit moins 5 puis que ça pourrait survenir à tout moment parce que avec ce qui se passe en ce moment, on sait qu'il y a un changement de garde dans le crime organisé montréalais. On a vraiment l'impression, là on sort du sujet, mais on a vraiment l'impression que les gangs de rue prennent de plus en plus de pouvoir, qu'ils se tirent des coups de fusil pour absolument rien. On l'a vu tout récemment, deux jeunes de 14 et 16 ans qui se sont tués dans Rosemont, au volant d'un véhicule volé d'ailleurs.
Ouais.
Surprise! Un véhicule Toyota.
La prochaine collaboration, c'est un peu de sensibilisation communautaire aussi là, à travers tout ça.
Ben, c'est très difficile de cibler comment on peut contrer ce problème-là ou comment on peut éviter que ça arrive. Mais on entend parler.
Il faut tenir compte du fait que plus ça va devenir violent, plus il va y avoir de la pression sur les voleurs. Plus il va y avoir de la pression sur les jeunes.
Ouais.
Montréal, c'est une grosse ville, mais c'est pas comme Toronto puis l'agglomération de Toronto.
Non, c'est
ça. Je pense qu'il y a différents facteurs. On peut pas expliquer ça, hein, mais j'insiste et je répète, on est chanceux que ça se produise pas comme ça. Puis vraiment, je pense qu'ils comprennent à un moment donné qu'il y a une ligne, que si on la franchit, ça peut dégénérer encore davantage. Là. Alors, on souhaite que ça bouge pas. On souhaite que même que ça diminue comme geste des voleurs.
Bon, ben Denis, en attendant que cette situation se règle, je vais aller payer mon compte d'assurance qui a augmenté de 17 % cette année en moyenne, alors que j'ai aucune réclamation dans les 25 dernières années. Alors, ça donne une idée de où on est avec l'assurance automobile. Ça coûte une fortune, mais on comprend en partie pourquoi. C'est une partie des réponses, là. Il y a un paquet d'autres éléments qui s'expliquent. Ouais. Le manque de formation des mécaniciens, des techniciens, la complexité des véhicules, la multiplication des véhicules électriques, tout ça, oui. Mais le vol automobile, ça fait mal. Bonne chance si vous voulez vous procurer un VUS Highlander en ce moment puis vous souhaitez l'assurer à bon compte. il y a même des compagnies, en fonction de l'endroit où vous demeurez, qui vont littéralement refuser de vous assurer. C'est pas plus compliqué que ça, même si vous avez un dossier impeccable. On est rendu là, malheureusement. Denis, merci.
C'est la conséquence des vols.
Ben ouais, voilà. Ouais. Merci énormément pour ton temps, Denis. Et puis, on a bien hâte de suivre toutes tes enquêtes à travers JE en espérant qu'il y ait un autre dossier là-dessus puis que le dossier soit un peu plus positif que le premier.
On verra.
Ça marche. Quand il y a un silence, Denis, comme ça, c'est parce qu'il sait très bien ce qui s'en vient. Merci, Denis. Bye-bye.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Le guide de l'auto.
Quelques nouvelles, Louis-Philippe. Bon, évidemment, on a appris cette semaine que les ventes de Tesla avaient chuté considérablement par rapport à la même période l'année passée, parce qu'évidemment, les trois premiers mois de 2024 se sont écoulés et qu'on a des chiffres à donner.
Oui, les chiffres des constructeurs commencent à rentrer, hein, évidemment. Ça commence tout de suite après la fin du premier quart. Et puis, ben, chez Tesla, on avait des grandes attentes, hein, parce que l'année a été canon l'an dernier. On se rappelle la Model Y, que ça a été le véhicule le mieux vendu. Chez Tesla, on a joué avec les prix toute l'année. Donc, on a stratégiquement encouragé à des endroits, quelque chose qui est que maintenant l'industrie est au diapason et fait un peu la même chose, surtout les véhicules électriques poursuivent un peu la cadence.
C'est un couteau à double tranchant.
Parce
que l'acheteur d'un modèle Y, par exemple, 2019-2020, qui décide de vendre son véhicule pour s'en procurer un nouveau, ben, constate qu'il subit une solide dépréciation et change peut-être d'avis sur l'achat de son véhicule, même si souvent les acheteurs de Tesla sont convaincus. Là.
Ouais.
Moi, je peux te dire que si tu me fais perdre 25-30 000 $ en un an, comme Tesla l'a fait récemment et comme Ford l'a fait récemment avec le Mach-E, pas certain que je vais en racheter un deuxième. Tu
ben,
comprends,
c'est sûr.
C'est assez frustrant. Fait que ça, j'ai peut-être l'impression qu'il y a une partie de la réponse de la diminution des ventes dans ça.
Oui, puis il y a aussi le fait que il y a beaucoup de modèles 2023 dans les cours. Hein, les autres constructeurs ont des modèles électriques à vendre. On est capable de les acheter comparativement à plusieurs mois de ça. Donc, peut-être que certains acheteurs de véhicules électriques se sont tournés vers d'autres marques parce qu'elles, finalement, elles étaient disponibles, quasiment autant disponibles que chez Tesla. Donc, c'est devenu un peu une réalité, une rivalité qui était peut-être un petit peu plus juste dans ce cas-là.
Tu es allé chercher quand même des informations sur les revenus de Tesla parce que au-delà des voitures qu'on vend, Tesla va chercher des montants ailleurs, notamment avec ses bornes de recharge.
Ben oui, on a parlé la dernière fois, et les revenus de Tesla, quand on les examine, puis là, en bourse, c'est une autre discussion parce que justement, petite note que le titre a chuté à cause de ça. On a tellement d'attentes sur ce constructeur-là.
On pense que c'est directement lié aux ventes de voitures, mais c'est pas nécessairement ça.
C'est pas nécessairement ça, que justement, on spécule beaucoup sur le titre de Tesla. Hein, ça monte en... Dans les six derniers mois, il a perdu 35 %. Si on regarde les titres des autres constructeurs, les legacy, là, un peu les gros constructeurs, ça bouge beaucoup moins, c'est beaucoup plus stable. Tandis que chez Tesla, on spécule beaucoup, puis la spéculation, ça rend le titre très volatile.
Mm-hmm.
Qu'est-ce que ça veut dire pour les acheteurs de véhicules, ça? Pas grand-chose à part le capital que la compagnie va avoir pour développer des nouveaux modèles.
Ouais. Là, ils ne font pas vraiment. Là,
ça, c'est Tesla. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux modèles. Et puis ça, c'est une autre affaire, Antoine, que chez Tesla, par exemple, au premier quart, on s'est rendu compte de 2015, on s'est rendu compte que des véhicules qu'on aimait électriques sont maintenant disponibles. C'est des modèles 2023, mais sont maintenant disponibles. On s'entend que chez certains constructeurs, il y a beaucoup de choix comparativement à chez Tesla qui a toujours les mêmes véhicules depuis longtemps. Donc, c'est des véhicules véhicules qui sont un petit peu plus vieux. Non pas plus vieux en termes technologiques, mais peut-être en design ou autre. Pour répondre à ta question, oui, chez Tesla, on a divisé les revenus. Les ventes de véhicules, on a les ventes d'électricité. On a également, Tesla est un assureur aux États-Unis, dans 13 États, je pense, en ce moment, qu'on est capable d'assurer via le constructeur directement. Mais également, on vend toutes sortes d'autres affaires. Là. Tu sais, les données, par exemple, récoltées dans les véhicules, etc. Ça, c'est pas juste Tesla qui fait ça. C'est beaucoup de constructeurs qui font ça. Mais je pense que Tesla est passé dans l'art, peut-être, de collecter non seulement des données dans le véhicule, mais à l'extérieur. Ça va être pour une autre conversation qu'on va avoir un moment donné. Comme on avait dit à un moment donné dans une autre discussion qu'on avait eue, il y a les crédits aussi, des revenus chez Tesla, les crédits qu'on vend aux autres constructeurs, les crédits parce qu'on ne fait pas de véhicules à essence.
Et comme la compétition en fait plus que par le passé, forcément, il y a moins de revenus qui se font de ce côté-là.
Il y a ça aussi.
Alors ça peut être une partie de la réponse. L'autre truc qui explique la baisse de vente de voitures Tesla, c'est l'invasion BYD. Alors, ce constructeur chinois qui n'est pas présent chez nous en Amérique du Nord est présent pour de l'industriel. On fabrique notamment des autobus qu'on va retrouver chez nous, mais on n'a pas de voiture BYD offerte en Amérique du Nord.
À part le projet pilote de Montréal avec les voitures taxi de BYD,
c'est parti
que ça fait longtemps que ça a existé. Mais si vous les croisez, vous les reconnaissez.
Mais une berline BYD... Alors, BYD, d'abord, c'est un constructeur chinois, mais qui a une gamme beaucoup plus large, beaucoup plus vaste que ce que Tesla peut offrir. Ouais. Ça va de la voiture sous-compacte aux gros utilitaires façon Cadillac Escalade, berline compacte, berline intermédiaire, VUS à trois rangées de sièges, camionnette. On a vraiment un catalogue complet. Du tout électrique, évidemment, et on a le vent dans les voiles. C'est un constructeur qui perce énormément du côté de l'Europe, de l'Asie, de la Chine, j'ai pas besoin de vous le dire, qui est absent ici.
On a visité les salons de l'auto en Europe toute l'année, puis on les a vus partout. On a une grosse présence. Ils veulent le marché européen.
Et c'est certain qu'on va voler des ventes à Tesla. Alors, Tesla était joueur seul initialement, mais là, notamment avec la berline dont le nom m'échappe, mais qui est une rivale directe de la Model 3.
La Seal.
Alors, c'est une voiture qui est dans les dents de la Tesla Model 3, littéralement.
Ouais, autant sur le plan technologique que la conduite.
Absolument. Alors, c'est sûr que Tesla, forcément, a plus de compétition que par le passé. Il y a une partie de la réponse là-dedans. En même temps, je reviens à ce que Elon Musk avait mentionné il y a une dizaine d'années. Elon Musk avait l'intention de faire changer le paysage automobile et d'inciter les autres constructeurs à emboîter le pas. On peut dire mission accomplie.
Absolument.
Maintenant, quand tu es un investisseur et que tu as des actions de Tesla, ce que tu veux, c'est que ça monte, pas que ça descende.
Puis quand tu es un nouveau propriétaire de Model Y qui a acheté à gros prix aussi,
ça c'est l'autre histoire.
Encore de la spéculation un peu.
Bon, tu parles de prix. On a dévoilé cette semaine aussi les prix des Chevrolet Silverado électriques. Plus de détails sur ce véhicule-là. Et pour moi, c'est une énigme, le Chevrolet Silverado EV, parce que officiellement, on en a vendu en 2023 aux États-Unis. C'est un véhicule qui s'était qualifié pour les prix du camion nord-américain de l'année parce qu'on avait vendu 18 camions aux États-Unis en 2023, des modèles millésimés 2024. Et là, on nous avait récemment annoncé que l'arrivée serait retardée de pratiquement un an sur le marché canadien. Là, ce qu'on vient d'apprendre, c'est que ça devrait arriver au cours de l'été. Alors, on change un peu d'avis, on se ravise, on revient sur nos décisions, on fait de l'essai-erreur, là.
Bien, on sait pourquoi aussi. En partie, je pense que la plateforme Ultium est encore en train de repasser ses plis. T'sais, on le voit, il n'y a pas beaucoup de véhicules sur la route en ce moment avec cette plateforme-là. Chez GM, on a également des problèmes de batterie, même avec les anciennes technologies.
Ouais.
Tout ça à réparer.
Tu ne veux pas te retrouver dans les souliers de Ford avec les problèmes du Mach-E. Il y a des nouveaux problèmes qui sont sortis récemment sur le Mach-E. Alors, les véhicules qui s'immobilisent un après l'autre sur le bord de la route avec des témoins au tableau de bord... comme quoi, ça finit jamais. Alors, GM lance une plateforme qu'on va multiplier sur un grand, grand nombre de modèles. Ils n'ont pas droit à l'erreur et c'est déjà pas si bien parti, là.
Ben, en ce moment, c'est des véhicules à petite production, c'est pas grave, les rappels peuvent être faits, ça fait pas trop de tapage. Par contre, si on lance un Silverado EV abordable, entre guillemets, qui part en fou, puis là, on en produit plein, puis il faut tout les rappeler.
On arrive avec le Blazer, avec l'Equinox, là.
Fait que ben, exactement, ça, c'est arrivé ouais. Dernièrement, j'ai essayé le Blazer EV, puis après ça, ils ont arrêté de le vendre, parce que justement...
Puis l'Equinox, quand ça va arriver au mois de juin, attelez-vous, là, parce que ça vient remplacer directement la Bolt, là, essentiellement. Là. Ouais. C'est un véhicule qui est très, très, très couru. Hâte de voir ça va être quoi le résultat de tout ça.
Beaucoup de prudence.
Ouais. Mais en attendant, facture pour le Silverado EV.
Oui.
Bon, ça commence avec la version Work Truck autour de 75.
Autour de 75, 74,699 pour la version Work Truck, 724 km d'autonomie promise. On parle également de 12,500 de capacité de remorquage, 12,500 livres, là, ça va dépendre et combien de temps, mais quand même des chiffres qui sont là pour la véhicule.
C'est pas 700 km d'autonomie et 12 500
livres. Non, c'est 12 000.
C'est où?
Zéro.
C'est ça.
Puis après ça, on joue avec le graphique.
Ouais.
Puis ça va là, jusqu'à, pour la version RST First Edition, on parle de 117 499.
C'est des sous.
Finalement,
là,
quand on voit le mot First Edition, le prix vient avec.
Et c'est drôle parce que moi, quand je vois le mot First Edition, je sais déjà que j'en veux pas. Parce que tous les problèmes vont sortir.
Ouais, c'est
moi,
ça.
J'aime mieux acheter le Last Edition. Lui, je sais qu'il va bien.
Ouais, c'est bien dit. Ouais, fait que on s'attend à ce que les livraisons commencent, on dit en milieu d'année, mais encore là, ça va dépendre de comment que les changements qu'on a faits, par exemple au Blazer EV, à la plateforme, à la batterie, au système de conditionnement, ont été transposés dans un autre produit gros volume comme le Silverado EV.
Bon, on parle du Silverado, mais on ne parle pas du GMC Sierra EV. Essentiellement, là, les informations vont sortir, tu sais c'est quoi, là, dans deux semaines, on va avoir le même communiqué avec les mêmes informations, mais chez GMC.
Juste des noms qui changent.
Puis GMC, pour moi, c'est un constructeur ou c'est une division qui... a de la misère à se sortir de l'ombre de Chevrolet. Tranquillement, on commence à le faire.
Oui.
Une marque qui connaît beaucoup de succès au Canada, mais a toujours été beaucoup plus dans l'ombre aux États-Unis. C'est d'ailleurs GMC qui va faire l'objet de notre bilan du constructeur de la semaine ou de la marque de la semaine, devrait-on dire, parce que GMC commence à avoir des produits un peu plus distincts. On arrive avec un nouveau Acadia qui ressemble vraiment pas au nouveau Traverse de Chevrolet. Le Hummer, évidemment, est un produit qui est exclusif à GMC.
Ouais, on a choisi de le mettre sous l'égide de GMC.
Et depuis, oh mon Dieu, depuis des décennies, on vend pratiquement autant de camions GMC Sierra que de Chevrolet Silverado au Canada.
Ouais.
Mais il a déjà été, aux États-Unis, ça a déjà été du 4-1. Maintenant, c'est rendu du 2-1. On vend deux Silverado pour un Sierra aux États-Unis, mais on vend un Silverado pour un Sierra au Canada. La marque GMC en proportion est très forte. Ça s'explique en partie par le réseau de concessionnaires qui est distinct aux États-Unis du marché canadien. Parce que chez nous au Canada, un concessionnaire GM vend toutes les marques et accessoirement, on peut avoir Cadillac.
Oui.
Alors qu'aux États-Unis, c'est des concessionnaires Buick GMC, parfois des concessionnaires uniquement GMC ou uniquement Buick. Et d'un autre côté, tu vas avoir Chevrolet et d'un autre côté, tu vas avoir Cadillac. Alors, on dissocie les marques beaucoup plus aux États-Unis et forcément qu'il y a beaucoup plus de concessionnaires Chevrolet qu'il y a de concessionnaires Buick GMC. Alors, ça explique pourquoi on vend plus de produits Chevrolet. Et bon, il y a une question d'habitude aussi là-dedans.
Oui.
Mais chez nous, tu entres dans un concessionnaire et puis il y a les deux et puis c'est en fonction de la disponibilité.
Exact.
Et tu n'as pas besoin de te dire que General Motors va envoyer un nombre équivalent des deux produits parce que, aux surprises, ils sont faits à la même usine parce qu'ils sont à peu de choses près identiques.
Ouais.
Alors,
GMC a travaillé fort dans les dernières années pour se distinguer de Chevrolet. Puis là, je vais citer des grandes lignes marketing de ce représentant-là. La première ligne de camions haut de gamme, hein, on voulait se distancer un peu de Chevrolet en disant, GMC, c'est des camions premium, c'est différent de la manière que c'est assemblé.
Ouais, on vend majoritairement du Denali dans le Yukon, par exemple. Là, ouais.
C'est sûr, parce que je veux dire, aux États-Unis, c'est ça qui est... T'sais, comme par exemple, je parle de Denali Ultimate. Ce branding-là est arrivé chez GMC. Très cher, des camions très cossus. Mais on veut pousser cette marque-là comme étant une branche plus haute de gamme. Je dis ça avec beaucoup, beaucoup de prudence parce que on s'entend, ils sont assemblés à la même place, c'est les mêmes véhicules, sensiblement. Mais on travaille fort chez GMC pour, je pense, rétrécir l'écart, surtout aux États-Unis. Ici, nous, on comprend cette différence-là puis cette ressemblance-là.
Ben, puis si tu regardes la gamme GMC par rapport à celle de Chevrolet, il n'y a pas de petits véhicules. Tu sais, il n'y a pas d'équivalent du Trax, par exemple.
Ça, non.
Il n'y a pas d'équivalent du Chevrolet Trailblazer.
Ouais.
Alors ça, on l'a plus envoyé chez Buick pour en faire des produits plus urbains, alors que chez GMC, on va avoir une gamme un peu plus camion.
Ouais.
Là, le truc que je comprends pas, c'est comment se fait-il que GMC n'a pas développé un rival du Ford Bronco? Un rival du Jeep Wrangler.
Vrai 4x4. Là.
Qu'on pourrait baptiser GMC Jimmy et qui pourrait être basé sur le Canyon, comme on va faire avec, par exemple, le 4Runner qui est sur le point de débarquer. Bon, le 4Runner, ça va être essentiellement un camion Tacoma.
Oui, c'est ça.
Bon, alors, il y a une opportunité ratée chez GMC. Ça fait des années qu'on demande un camion comme celui-là. Il n'arrive pas. On pourrait innover avec des mécaniques intéressantes aussi. Parce que, bon, le Bronco, c'est un produit qui se vend et qui est très lucratif. J'ai pas besoin de te dire à quel point Jeep connaît du succès avec son Wrangler. Et chez GM, on n'a rien.
Ouais.
On n'a absolument rien. C'est pas le rôle de Chevrolet d'offrir un produit comme celui-là. Chevrolet a d'ailleurs scrappé l'opportunité, si tu me permets l'expression, en utilisant le mot Blazer puis en appliquant ça sur un VUS
familial,
contemporain, mais qui n'a rien à voir avec le Blazer qu'on a connu à une autre époque.
Ah ouais. Puis ça ferait quelque chose d'extraordinaire pour le branding de GMC. Ça mettrait un véhicule fort un peu dès que le monde s'associe à cette marque-là.
Parce que on vient de lancer un Hummer, mais en même temps, qui sait que c'est un GMC? Et tu auras remarqué que sur un GMC Hummer, le logo GMC, il est gros comme un sou noir. On l'a placé en dessous de la roue de secours en arrière pour être bien certain qu'on le voit pas. Ça fait partie de la famille GMC, mais Hummer est un nom plus fort que GMC dans le cas de ce produit-là, de par l'image, de par ce que ça représente.
Ouais.
Puis en même temps,
il fallait le mettre en quelque part. Puis
en même temps, ça sera pas le gros véhicule à volume. Oui, on va faire des sous avec ça, mais ça sera pas le gros véhicule à volume de GMC. Mais ça prend un 4x4 pour venir. Écoute, Nissan est sur le point de dévoiler un nouveau Xterra. On l'a annoncé. Il y a beaucoup de rumeurs qui entourent ça. Le 4Runner revient en force. Le Land Cruiser revient en force chez Toyota.
Ouais.
Ford et Jeep connaissent énormément de succès avec leurs 4x4 respectifs. Il n'y a rien chez GM. Pour moi, c'est incompréhensible. S'il y a un trou dans la gamme chez GMC, c'est celui-là.
Oui. Puis un produit qui peut être électrique également éventuellement, qui peut utiliser les technologies de la marque pour être électrique. Puis GMC pourrait avancer des moteurs à essence, des nouvelles technologies hybrides, un modèle électrifié, puis là, aller ramasser pas mal tous les clients qu'ils ont besoin dans le...
Bon, aussi, il faut s'attendre de la part de GMC à ce qu'on dévoile prochainement la nouvelle génération du terrain, parce qu'on a vu le Equinox non EV qui a été présenté tout récemment.
Oui.
C'est un peu mêlant, ça, ces Chevrolet, parce qu'on utilise le même nom pour deux produits différents. Là.
Oui.
Mais,
tout à fait pas pareil.
Sont totalement... oui, c'est ça. Ce sont totalement pas pareils. C'est littéralement ça. Mais le GMC terrain, lui, sera... Je ne veux pas dire cloné, mais utilisera les mêmes bases que l'Equinox de nouvelle génération 2025 qui a été dévoilé récemment. Et ça risque aussi, si on l'a bien designé, si on a fait du bon boulot avec ça et qu'on arrive avec peut-être une motorisation distincte ou une version plus luxueuse que ce qu'on va retrouver du côté de chez Chevrolet, ça pourrait être un produit qui pourrait être un levier chez GMC parce que pendant des années, ben ça a été un peu la même chose. Equinox ou terrain, on choisissait ce qu'il y avait là.
C'est sûr, qu'est-ce qu'il y avait qui était
disponible.
C'était
jamais un produit qui se situait au sommet de la gamme. C'est dur d'aller rivaliser avec un CR-V, un RAV4, bon, ce genre de produit-là.
Ouais.
Mais Chevrolet et GMC doivent être présents et de façon très forte dans ce segment-là. Alors, à suivre, mais GMC est une marque dont la popularité est en hausse. Du moins aux États-Unis par rapport à ce que ça a déjà été. Ça va vraiment très, très bien.
Ouais.
Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage.
Vu passer Louis-Philippe du côté de la succursale Polestar à Laval, qui est évidemment la seule au Québec pour le moment. On planifie d'en avoir une seconde sur la Rive-Sud très prochainement.
Oui.
Et là, évidemment, ben, ils ont en exposition le Polestar 3, qui va finir un jour peut-être éventuellement par arriver sur notre marché. Le véhicule qui est là-bas est non disponible à la vente, mais ils ont une version de pré-production que oui. les gens peuvent voir si jamais on veut passer une commande sur ce produit-là. Et là, ce qui est assez particulier, c'est que avant même qu'on commercialise le Polestar 3, ben toi, tu as pu aller essayer le Polestar ou la Polestar 4.
Oui, le Polestar. L'utilitaire Polestar 4.
Puis c'est pas
c'est
clair.
C'est mélangeant des chiffres.
Non, puis c'est pas clair si c'est une voiture, un VUS. On sait pas trop. Moi, je suis encore pas certain de l'absence de la lunette, là.
Ouais.
Mais tu as pu aller essayer ce produit-là. Comment on le positionne d'abord chez Polestar, le produit, face à la compétition? C'est quoi la rivalité directe du Polestar 4?
C'est difficile à dire parce que on essaie de faire avec le Polestar 4, embarquer un peu sur la mode des utilitaires coupés. Hein, des utilitaires coupés chez Mercedes, BMW, etc. Et puis, selon les designers, la seule manière qu'on pouvait faire ça, c'était en enlevant la lunette arrière et en mettant une caméra à la place. Puis ça, je vais en revenir à ça, cette feature-là. Mais ça donnait...
Est-ce que tu vois ça comme un rival du Macan EV, du iX2, par exemple, qu'on a en Europe, ce genre de produit-là? Ou est-ce que c'est un véhicule plus volumineux?
C'est un véhicule qui va être plus abordable, en fait, parce qu'on a reçu les prix. Là, puis okay. Définitivement...
Ben que le Macan, ça, c'est sûr.
Oui, ça, c'est sûr. Ça, je peux te le garantir. Ouais. Est-ce que plus volumineux, tu, on parle... Il est à peu près 30 cm de plus long que la Polestar 2, la berline Polestar 2. Deux pouces plus court que le Polestar 3. 2 pouces plus étroit. Donc, le Polestar 3, on l'a pas vu encore. Là, je sais, il faut quand même l'imaginer. Vous pouvez passer à la salle de montre, mais c'est un véhicule qui est un petit peu plus gros. Le Polestar 4 se situe entre les deux, entre la Polestar 2 et la Polestar 3. Là, il ne faut pas que je me mêle dans mes chiffres parce qu'on a encore là, on va remplacer, on vient de lire ça là, aujourd'hui, on va remplacer la Polestar 2 par la Polestar 7 qui va être la suite de cette Polestar 2-là. On n'y va pas dans les grosses.
C'est un festival de bonnes idées qu'on a là-bas avec les
noms. Ça me fait penser à Mercedes. À un moment donné, on va manquer de chiffres puis on va y aller avec des sons. Là,
c'est ça.
Mais c'est ça. Donc, c'est pas mélangeant du tout. Mais
tout pour dire que 10 voitures. Ils vont sortir un complémentaire.
Un X, un Z. Mais tout pour dire que c'est ça. Ça se positionne entre la 2 et la 3. La 3 qu'on n'a pas vue encore, la Polestar 4 devrait arriver. C'est sûr que c'est un véhicule qui est moins cher que la Polestar 3, parce que la Polestar 3, ça touche ses 100 000 $ Ça touche 100 000 $ Beaucoup de technologie dans ce véhicule-là. Je ne l'ai pas essayé personnellement, mais beaucoup de technologie. On dit dans la Polestar 4, c'est quelque chose qui ressemble plus à la Polestar 2 en termes de technologie. Puis il y a un intérieur, un habitacle typique
très
Polestar
épuré,
2, très épuré. On parle de textures qui sont issues de matériaux recyclés, etc.
Je suis certain qu'il y a 170 personnes qui ont été engagées pour te faire une belle chanson, là, pour t'expliquer à quel point le velours est extraordinaire puis que le tissu est recyclé.
On sauve les tortues là, dans l'océan avec ça. Mais somme toute, un véhicule qui est performant. Hein, on parle de... Non, on a un système, c'est similaire au Polestar 3, on peut l'avoir avec le moteur à l'arrière, donc les roues motrices arrière. Deux moteurs, évidemment, pour le rouage intégral. Une batterie plus petite que celle de Polestar 3, il fallait quand même faire une différence parce qu'un véhicule à 100 000 $ versus le véhicule que vous allez apprendre le prix qui est un petit peu plus bas, qui est admissible à certaines subventions.
Pour le moment.
100 kWh, donc l'ensemble de batterie, qui est quand même, on y va pas dans des petites batteries.
Fait que c'est lourd, là.
C'est pesant.
Ouais.
544 chevaux pour la version à deux moteurs et 272 chevaux pour la version à propulsion. Okay. Fait que c'est quand même, on a de la performance, un véhicule européen. 483 km pour le véhicule à rouage intégral et 434 km pour le véhicule à propulsion. Donc, jusque-là, tout va bien.
Est-ce que c'est la même plateforme que la Polestar 2?
Oui, c'est la même plateforme. C'est la même plateforme que c'est la plateforme SEA, Sustainable Experience Architecture.
OK, donc.
Qui est la 3, là.
Oui, qui est le 3, mais qui n'a rien à voir avec le XC40, le C40 et la Polestar 2.
Non.
Donc, c'est complètement
ça. C'est ça, exactement. Un véhicule qui est pesant. Là, si je me rappelle bien dans les chiffres, je ne les ai pas devant moi, mais c'était 5300 livres, je pense, pour le modèle à deux moteurs.
C'est quand même pesant.
J'ai apprécié. Moi, je l'ai conduit sur un centre de test, hein, Volvo, donc c'était des véhicules de pré-production. On les amenait pas sur la
Volvo
route.
Ou...
Volvo, pour le temps, tu vois.
Oh, ouais, on se mélange tout le temps.
C'était chez Volvo, sur le centre de test de Volvo.
Ah, mais c'est deux marques qui ont rien à voir.
Non.
Absolument. Là, c'est complètement
Polestar distinct. Et Volvo. Ouais, on n'a jamais vu ça, le signe Polestar chez Volvo.
C'est ça.
Donc, c'était un centre de test. Donc, on a pu brasser en bonne et due forme les véhicules. Moi, j'ai trouvé que les gens qui ont designé ce châssis-là ont fait une bonne job à tromper un peu ce poids-là. Puis moi, c'est quelque chose que je remarque tout de suite dans les véhicules électriques. C'est la première affaire maintenant qu'on teste depuis des années.
Ah oui.
C'est comment la pesanteur est gérée. On a une suspension adaptative sur le modèle à quatre roues motrices et non sur le modèle à propulsion. Puis j'ai trouvé que le modèle à propulsion plus abordable, on n'y enlevait rien, même sans cette suspension adaptative-là.
Et plus léger, forcément.
Ben c'est ça aussi. Fait que ça n'y enlevait pas grand-chose. On allait chercher, puis on en prenait. Donc, pour un véhicule de 2,5 tonnes, c'est quand même impressionnant. À l'intérieur, évidemment, on va me demander la lunette arrière. C'est sûr, sur une piste de course, on teste
pas
vraiment.
Faut expliquer un peu le contexte. Nous écoutent à la télé, ben vous allez voir une image. Mais pour ceux qui nous écoutent à la radio, ben faites-vous une image.
Le véhicule est dépourvu de vitres à l'arrière, de lunettes arrière. On a remplacé ça par une caméra qui diffuse l'image dans le rétroviseur intérieur. Ok.
Bon, ce qui est quelque chose qui devait éventuellement arriver dans la mesure où de plus en plus de véhicules sont dotés de rétroviseurs caméra, justement.
Ouais.
Mais au niveau du look, ça clash. Puis au niveau de l'imaginaire, de ne pas avoir de lunettes arrière, c'est pas un chevivan, là. Ben, à un moment donné, tu veux avoir...
C'est ça. T'as deux options. Tu vois, ça, c'est toi, t'as un cube, un pick-up bien loadé ou bien...
c'est ça.
Camion de livraison. Mais... Et sur la piste, j'ai pas pu vraiment faire des manœuvres comme en ville. T'sais, donc, c'est sûr que ça va jouer beaucoup. Parce que la distance ici, la distance dans le rétroviseur extérieur et puis le réflexe de juste se retourner n'a pas été vraiment, vraiment exploité. Par contre, pour les gens en arrière qui sont assis à l'arrière, ça fait quand même un peu weird que quand tu regardes, tu vois juste un mur.
T'as-tu dit pour les gens en arrière qui sont assis à l'arrière?
Oui, j'ai
pas
dit
mal
ça.
À l'arrière.
C'est ça,
hein?
À l'arrière, hein? Okay. Puis c'est pas trop rangé, là. C'est deux rangées. C'est pas à l'arrière de ceux à l'arrière.
Alors, la facture.
Bon, en termes financiers, on parle de 64 900 $ pour le modèle à propulsion.
Surprise.
Donc, un petit 100
$ admissibilité au crédit, puis ça va baisser dès 2025.
Bon,
OK.
Puis un crédit provincial, pardon. Et puis 75 000 à débourser si on veut un modèle à rouage intégral.
Ben, essentiellement, c'est la fourchette de prix d'un modèle Y. Là. On est dans le territoire d'un modèle Y. On joue carrément là-dedans. Là.
C'est un véhicule qui est plus gros, plus spacieux, etc., etc., mais c'est ça. 87 500 pour quand c'est loadé. Donc, on a quand même un véhicule.
Oui. On va jouer dans ce territoire-là. Et est-ce qu'on a mentionné quand le véhicule arrivait?
Si je me trompe pas, ça devrait arriver vers la fin 2024 pour les Polestar.
Donc,
4.
Quand même après le Polestar 3.
Oui, quand même après le Polestar 3. C'est parce que lui, c'est ça. Ça a été long pour le Polestar 3. Il y a eu des délais. Puis là, maintenant,
il y
en a encore.
Bon, donc, moi, c'est pas mal moins exotique, mon essai de cette semaine.
Oui.
C'est une Nissan Sentra qui a été... partiellement redessiné, la partie avant. On a ajouté le système arrêt-démarrage sur la voiture, modernisé quelque peu certains éléments de style. L'écran à l'intérieur s'est demeuré le même. On a-tu modifié des fonctions? Peut-être. Ce qui est assez particulier, c'est qu'on conserve en 2024 la boîte manuelle pour la version S de base et la version SR haut de gamme. Ben, haut de gamme, enfin. Tu comprends ce que je veux dire?
Mais c'est le fun, une boîte manuelle dans une version qui est un petit peu plus étoffée, parce que c'est rare qu'on voyait ça.
C'est la seule berline de ce marché qui est offerte avec une boîte manuelle avec la Jetta. Alors, si tu analyses aujourd'hui la Corolla, la Civic, la Mazda 3. La Mazda 3 peut avoir une manuelle, mais en hatchback seulement. Mais Civic, c'est la même chose aussi. Tu peux avoir une manuelle dans l'hatchback. Mais dans les berlines, il n'y a plus rien à part la Sentra et la Jetta. Et la Sentra en boîte manuelle n'est pas offerte sur le marché américain. Alors, pourquoi nous, on en bénéficie? une seule réponse, la Sentra Cup. La Coupe Nissan Sentra, oui. Qui est disputée à travers la province, l'Ontario. Ça s'en va aux États-Unis cette année pour la première fois.
Oui, oui, j'ai
alors,
vu
on
ça.
On va amener une course là-bas. C'est la seule raison pour laquelle on l'offre, parce que il y a pas vraiment d'acheteurs de manuels désormais chez Nissan pour la Sentra. Je pense qu'il faut lancer la serviette, là. Et honnêtement, le défaut de la boîte manuelle, c'est que tu vas consommer 20% plus d'essence qu'avec la boîte CVT,
ouais,
qui a été retravaillée. Et ça a permis d'abaisser la cote de consommation d'un autre 2 000 litres au 100 km. Alors, moi, j'ai fait 240 km avec la voiture pour une moyenne combinée à 6,3. Et c'est une version SR avec les grosses jantes, là.
Avec les
grosses
jantes.
Alors, c'est quand même vraiment pas vilain. Constatation un peu drôle quand même, c'est que c'est la seule berline dans son segment qui n'offre qu'une seule configuration mécanique. Alors, tu as un moteur 2 litres, 149 chevaux, c'est tout. Si tu regardes la Civic, il y a 3 offres mécaniques dans la berline, incluant la SI. Il y en aura une 4e avec l'hybride l'an prochain.
Ouais.
La Corolla, il y a une hybride. Il y a évidemment le moteur 2 litres, 169 chevaux. Si tu vas dans l'hatchback, il y a autre chose. Jetta, ben, tu as le modèle de base de la GLI. Impreza, tu as le 2 litres, le 2,5. Tout le monde a une offre mécanique diverse.
Ouais.
Chez Nissan, un moteur. je m'en ai dit une transmission, c'est pas vrai. On a une manuelle, mais en vérité, bonne chance pour en avoir une. Une manuelle, je suis pas sûr qu'on en produit énormément.
Ouais.
Alors, c'est Nissan a décidé de focusser là-dessus. C'est vraiment un produit qui est efficace, qui est à point, qui consomme peu, qui a prouvé sa fiabilité
ben ouais, ce moteur-là est très fiable.
Et qui coûte à équipement équivalent, là, j'ai fait des comparatifs, à peu près 4 000 $ de moins qu'un Civic. Alors, si tu prends une Honda Civic Touring, oui, qui a une mécanique un peu plus puissante, certes, là, mais si tu prends, par exemple, une Civic Sport, qui serait peut-être l'équivalent de la Sentra SV,
ouais,
tu as un bon 4 000 de différence entre les deux. C'est difficilement justifiable, honnêtement. La Sentra est une voiture qui se défend très bien, une des moins chères du marché, puis ça vient aussi répondre à la question suivante, mais pourquoi j'achèterais une Versa s'il y a une Sentra à côté qui est vendue pour 2 000 $ de plus, puis qu'en plus, on te la finance à un taux plus faible.
Mmh.
La Versa a signé son arrêt de mort, c'est terminé.
Ouais, je pense que...
Et moi, je trouve qu'il y a encore une pertinence pour les sous-compacts, mais dans ce cas-là, pas vraiment, parce que Nissan...
C'est comme si on voulait pas, là.
On fait tout pour pas la vendre, tu sais. Mmh. On fait tout pour pousser la Sentra, pour ne pas pousser la Versa. Et quand on voit des Versa récentes, ben, il y a toujours une plaque F dessus avec un autocollant Enterprise ou budget.
Mmh.
C'est ça, une Nissan Versa aujourd'hui.
Ouais.
Alors que la Sentra a quand même cet avantage d'être une voiture pas mal plus désirable, à prix très attrayant. Là, la voiture que j'ai mise à l'essai coûtait 33 000 $, mais loadée au bouchon, comme on dit. Ça part à 25 000 une Sentra avec un équipement déjà décent. Et à 25 500 vous avez une version SV très bien équipée. Vous avez tout ce que vous avez besoin là-dedans. Là.
On reste dans une braquette de prix qui est quand même très intéressante.
Alors qu'une Civic, de base, ça part à 30 000
ouais.
T'sais, c'est plus les 16 998 qu'on a connus il y a quelques années avec des taux à 0,9. Là.
Non.
Mais c'est quand même une voiture passablement attrayante face à la compétition dans un segment qui est pas sur une pente ascendante. Il faut le souligner, là, les voitures compactes, ça perd en popularité.
Ouais,
pas autant que les intermédiaires. Tu vois, on a vendu quoi? 9 000 Sentra l'année passée, mais on a vendu 1 500 Altima.
Ouais.
Alors, ça aussi, c'est dossier réglé chez Nissan. On va cesser la production de ça à la fin du terme actuel. Alors, voilà. Merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Hugues sera de retour pour nous parler du Lincoln Blackwood. La semaine prochaine. Tu ne connais pas ça, hein?
Non, je ne connais pas ça. J'ai hâte d'entendre Hugues qui va m'expliquer ça.
Salut!
Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.